Alors Valérie, Donald Trump dit avoir annulé, très important ça, une rencontre secrète de négociation avec les chefs talibans. Ça fait 18 ans que les Américains sont présents en Afghanistan. Évidemment, c'est un thème récurrent. Quand est-ce qu'on va sortir de l'Afghanistan? Oui. Est-ce qu'on va pouvoir pacifier ce pays? Et là, on disait que les négociations, quand même, progressent rapidement pour tenter d'établir une entente entre le gouvernement de Kaboul et les talibans.
Oui, tout à fait, parce qu'il y a un émissaire américain qui se rendait souvent négocier avec les talibans. Alors, on se rapprochait de cette entente-là. Et ce qu'on a appris, c'est qu'il y avait une rencontre secrète de prévue à Camp David, au Maryland. Donc, je vous dirais la résidence un peu secondaire du président américain, où il y a beaucoup de négociations qui s'y font aussi. Et là, pourquoi on a annulé ça, Paul, à la dernière seconde, c'est que les talibans ont avoué être responsables d'un attentat suicide qui a fait 12 morts, dont un militaire américain. Alors là, bien sûr, Trump a dit, ben écoutez, si vous n'êtes pas capable d'avoir un cessez-le-feu, de contrôler les gens sur le terrain en Afghanistan et qu'il n'y ait pas de morts pendant qu'on est en négociation et qu'on est si près d'un accord, ben vous n'avez peut-être pas l'autorité pour négocier un accord avec nous.
Exactement. Et j'ai lu un article, je crois que c'était dans le New Yorker, sur la situation en Afghanistan. Il y a beaucoup de dissensions et de tensions à l'interne chez les talibans. Alors, est-ce que les porte-parole talibans qui recherchent une entente avec le gouvernement afghan à Kaboul et avec les Américains là, pour tenter de pacifier le pays ont le contrôle, justement,
oui,
sur certaines régions qui sont encore dominés par ce qu'on appelle les seigneurs de guerre,
exactement,
les chefs de guerre.
Est-ce qu'ils ont voulu saboter ces négociations-là? Voilà. Il faut savoir aussi qu'il y a une élection qui s'en vient en Afghanistan en septembre. Et ne pas oublier, Paul, que l'anniversaire du 11 septembre, c'est tout près aussi. Alors, il y a beaucoup de gens qui faisaient remarquer aussi le fait qu'on a ces négociations avec les talibans quand même dans un moment sensible aux États-Unis.
Avez-vous remarqué, ça va faire 18 ans, 18 ans cette semaine, comment on a l'impression que c'est encore hier?
Oui.
Oui. Hein,
c'est
oui.
Incroyable. 18 ans, oui. Thérèse.
Le temps passait très vite, mais c'est resté dans nos mémoires. Ça, les images, tout est resté dans nos mémoires.
On oubliera.
Des détails épouvantables.
Oui. C'est jeune, Valérie.
Oui, mais je m'en rappelle encore. Oui. À l'école, on avait eu un message même dans les intercoms pour nous dire de ne pas paniquer parce qu'il y avait eu un attentat. J'étais au secondaire et on nous avait prévenu au cas que des gens nous en informent. Mais ça a changé vraiment la face quand même aux États-Unis de la politique.
Et évidemment, le président ne peut pas passer une semaine sans s'en prendre à des représentants des médias. Il a attaqué sur Twitter,
oui,
deux journalistes du Washington Post.
Oui, en disant qu'ils ne méritent même pas de couvrir la Maison-Blanche. Et entre autres, Philippe Off the Record. Alors ça, c'est le surnom qu'il lui a donné, Rooker, et Ashley Parker. Alors, Philippe Rooker, on a parlé indirectement de lui la semaine dernière parce que c'est lui qui aurait sorti cette histoire de l'assistante personnelle de Donald Trump qui avait pris un verre de vin de trop et qui avait parlé de la famille Trump et qui a finalement démissionné. Ils ont fait, ces deux-là, un article sur les performances de Trump en disant « Trump lost summer », en disant que finalement, il n'y avait pas eu de bonne performance, il y avait eu plein de choses qu'il avait tenté de réaliser, mais que ça n'avait pas été le cas. Et bien sûr, ça n'a pas plu au président qui dit que c'est des journalistes de bon niveau. Il faut dire quand même que les deux personnes ont gagné des prix Pulitzer qui sont
oui,
très, très respectés.
C'est de très bon niveau,
voilà. Et Valérie me connaît, avec Raphaël Jacob aussi, oui, s'il est à l'écoute. Je tiens une base de données sur tous les surnoms, les colibets que Donald Trump a donné depuis le début de sa présidence. Alors là, je dois ajouter
oui,
off the record.
Ouais. Exactement, pour ce journaliste du Washington Post.
Et probablement que tu n'auras plus de place dans ton ordinateur d'ici la fin de l'année.
Ben, peut-être, s'il est réélu, on ne sait pas. La
voilà.
Caroline du Sud a voté pour ne pas tenir de primaire républicaine et donc laisser le champ libre à Donald Trump pour être le seul candidat républicain à l'élection de 2020.
Exactement. Bon, parce qu'on le sait, le taux d'approbation du président chez les républicains frôle les 90 %. Alors, je vous dirais que la chance que quelqu'un a de contester le président dans une primaire et de la remporter est assez mince. Il y en a quand même qui le font. Et là, la Caroline Sud a dit, ben, écoutez, nous, on veut économiser 1,2 million de dollars aux contribuables. On ne va pas tenir de primaire. On va directement dire que c'est Trump le candidat. Et un intéressant candidat, c'est Joe Walsh. Joe Walsh, c'est un membre du Tea Party. C'est un ancien représentant de l'Illinois, un animateur très conservateur de radio américaine. Et lui, il n'a pas la langue dans sa poche. Et Paul, je pense que tu vas trouver très intéressant qui le conseille actuellement et qui a avoué. George Conway, qui est le mari de Kellyanne Conway, qui est une conseillère du président. Vous avez peut-être déjà entendu ce nom-là, qui est très près du président. Et elle, son mari, est toujours, toujours à critiquer Trump sur Twitter. Alors, c'est assez particulier.
Mais ce qui
comme
est incroyable, c'est que Mme Conway, Kellyanne, elle est conseillère du président.
Voilà.
Et le président n'arrête pas de déblatérer contre son mari.
Et son mari, contre son boss,
et contre
finalement.
Son boss. Alors, imaginez-vous la situation. Alors là, nous arrivons, et je tiens dans mes mains, mesdames, messieurs, un crayon marqueur. Pourquoi? Parce que cette semaine, on a parlé du Sharpie Gate.
Oui.
Apparemment que le crayon de Donald Trump a dépassé un peu trop loin l'ouragan Dorian.
Oui. Alors, on n'avait pas le choix d'en parler. Alors, la semaine dernière, lundi, on a parlé ici d'ailleurs à l'émission du fait que Trump avait dit, ben écoutez, l'Alabama pourrait être touchée par l'ouragan. Et le service météorologique de l'Alabama s'est tout de suite dit, monter un peu aux barricades en disant, non, on ne sera pas touché. Il n'y a aucune chance qu'on le soit. Finalement, on a eu un petit... Je dirais que les services de NOAA ont donné raison au président.
NOAA est la grande agence environnementale américaine. C'est du sérieux, là. C'est une agence scientifique. Et a dit, à la rigueur, Donald Trump n'avait pas tout à fait tort de dire que l'Alabama, le coin sud-est de l'Alabama, aurait pu être touché.
Exactement. Et ça aurait pu rester là, cette histoire-là, et dire, bien, écoutez, l'information qui a été donnée au président était peut-être moins précise ou autre. Mais ce qui est le problème, et pourquoi on appelle ça le Sharpie Gate, comme les crayons feutres permanents noirs là, qu'on peut avoir à la maison, c'est qu'il a présenté une carte du cône de la trajectoire de l'ouragan. Et je vous dirais que le trait est en blanc. Et on a rajouté un trait en noir au crayon Sharpie. Alors, il y a deux choses. Bon, bien sûr, ça l'a fait...
Il a refait la carte.
C'est ça,
météo,
exactement.
Pour que ça... Excusez l'expression, que ça fitte.
Voilà, avec ce qu'il a dit. Alors, pour se donner raison, et les late shows, les émissions de fin de soirée,
oui,
ont
ça ne
adoré.
S'invente pas.
Je vous ai sorti des extraits, justement. Alors, on va pouvoir entendre Trevor Noah et Jimmy Kimmel.
I mean, don't get me wrong. I'm impressed that Trump can locate Alabama on a map, but still, the president of the United States just changed a map with a Sharpie to make himself look right. Huh? And he thought we wouldn't notice. Everything else, all the lines are in white, and then it's just like this one black line.
Not only do we have fake news, we now have fake weather, too. It's...
Nous avons maintenant la météo fausse,
oui,
la fake weather.
Oui, on n'a pas seulement les fausses nouvelles, mais je dois dire et je dois donner vraiment ça à la campagne de réélection de Trump. Ils ont vraiment bien géré ça parce qu'ils ont décidé de vendre des Sharpies à l'effigie du président américain avec sa signature dorée. $15 pour 5 crayons Sharpie. Alors, bien sûr, des crayons made in America.
Est-ce que ça va être comptabilisé dans les dépenses de la
campagne? Alors, je ne sais pas, il faudrait vérifier, mais quand même, je trouve ça très, très intelligent d'avoir décidé de vendre ça avec la signature
du président.
C'est brillant.
Si je me présentais ici pour n'importe quelle partie, j'aurais mon Sharpie.
Bien, écoute, Paul, je participerai à ta campagne.
Valérie, à surveiller cette semaine rapidement un prochain débat chez les démocrates.
Oui, sur ABC, ça va se passer en direct de Houston au Texas de 8h à 11h jeudi. Et il y a 10 candidats seulement qui vont être présents. Alors, ça ne sera pas aussi, je vous dirais... difficile à écouter que les derniers. Alors, 10 candidats à la présidence qui vont s'y présenter.